vraiment se moquer de moi, cette réaction, c'est bien l'idée, répandue en Europe, que les États-Unis, c'est d'abord et avant tout le pays du capitalisme non régulé. Et donc pour la protection sociale et les politiques de lutte contre la pauvreté, on repassera. Alors, deuxième anecdote, quelques semaines après être arrivé aux États-Unis, j'allume la télé pour essayer de comprendre quelque chose à la vie politique américaine, et là, j'ai la grande chance de tomber sur la tête de Mitt Romney, un candidat républicain à la présidentielle, et Mitt Romney est en train de déclarer fièrement sur CNN « Vous savez quoi? Moi, je ne suis pas préoccupé par le sort des pauvres. Et je ne suis pas préoccupé par le sort des pauvres parce que, dans ce pays, nous avons un filet de sécurité sociale très, très développé. » Et puis en fait, Romney est même allé plus loin, il a dit « Le problème aux États-Unis, c'est pas que le filet de sécurité sociale serait insuffisant, le problème c'est plutôt l'inverse, c'est que les États-Unis sont en train de devenir une société des droits acquis, une entitlement society, une société de l'assistanat. » Alors Romney a peut-être perdu les élections en novembre, mais il a quand même fait 47% des voix. Alors à partir de ces deux petites anecdotes, ce que je voudrais faire dans mon exposé, c'est essayer d'un peu confronter les deux perceptions radicalement différentes de l'État-providence américain qui les sous-tend l'une et l'autre. Une question pour faire simple, c'est trop simple, tu me diras, d'un côté la perception majoritaire dans l'opinion publique européenne, et d'un autre côté la perception du candidat républicain à la présidentielle et ses nombreux électeurs. Alors, pour confronter ces deux perceptions, j'ai essayé dans mon exposé de vous donner un aperçu, essentiellement descriptif, des principales politiques américaines de protection sociale, et je vais contraster ces politiques avec celles qu'on trouve dans la plupart des pays européens. Alors, mon angle d'approche, ce sera surtout d'essayer de voir quel est l'impact que les politiques sociales américaines ont sur la situation des personnes les plus pauvres. La lutte contre la pauvreté sera mon prisme privilégié. Alors pour faire ça, je vais procéder en trois temps. D'abord, en guise de préliminaire, je vais commencer en comparant, mais assez rapidement, la manière dont la pauvreté est officiellement définie et mesurée aux États-Unis et en Europe. La lutte contre la pauvreté est quand même un des objectifs officiellement centraux de l'État-providence. Vous allez voir que deux mesures très très différentes ont été adoptées de part et d'autre, et je vais essayer de souligner ce que ces mesures, ces indicateurs officiels, révèlent de nos conceptions respectives de la pauvreté. Puis, dans un second temps, ce sera le cœur de mon exposé, je vais passer en revue les principaux programmes américains de protection sociale, en mettant, si vous voulez, à la recherche de la version locale des prestations qui sont les mieux connues, les mieux établies chez nous en Europe. Je ne vais pas entrer évidemment dans le détail de toutes les réglementations applicables. Je vais plutôt, à travers ce descriptif, à travers ce panorama, je vais plutôt essayer de montrer qu'il y a effectivement de bonnes raisons de dépeindre l'État-providence américain comme, si pas minimal, en tout cas, ils sont très, très incomplets en comparaison avec l'Europe. Et puis enfin, dans un troisième et dernier temps, je vais essayer d'un peu nuancer le tableau en mettant en exergue le fait que, malgré le retard, malgré les faiblesses du système américain par rapport à nos standards sociaux, ce système comprend tout de même un certain nombre de mesures qui procurent de la sécurité d'existence, mais qui sont très rarement, voire jamais, prises en compte par les observateurs européens. Dans cette troisième partie, je vais essayer de montrer que l'État-providence américain est un peu moins minimaliste qu'on le pense et qu'on le dit habituellement, pour la bonne et simple raison qu'il est en partie constitué de politiques qui n'existent pas vraiment chez nous. Donc je commence avec mon premier point. Comment est-ce que la pauvreté est officiellement définie et mesurée des deux côtés de l'Atlantique? Alors dans l'actualité, dans les médias, on entend souvent parler du seuil de pauvreté. On nous dit que 10% de la population vit sous le seuil de pauvreté. On nous dit que le taux de pauvreté a augmenté ou diminué au cours de l'année écoulée. Mais en général, et je trouve ça un peu curieux, on ne dit pas grand-chose sur ce qu'on entend exactement par pauvreté. Alors, à partir de quand est-ce qu'une personne est officiellement considérée comme pauvre? Eh bien, le seuil de pauvreté est calculé de manière radicalement différente aux États-Unis et en Europe. L'indicateur officiel américain a été adopté dans les années 60, et cet indicateur est basé sur les travaux d'une statisticienne qui était fonctionnaire au ministère américain des Affaires sociales. À l'époque, on était dans le contexte de la guerre contre la pauvreté, initiée par Lyndon Johnson, le président démocrate qui avait succédé à Kennedy. Et alors l'administration Johnson était à la recherche d'un indicateur de privation économique. Leur but était de pouvoir collecter des données et de pouvoir cibler leurs mesures, leurs politiques publiques visant à éradiquer la pauvreté. Et éradiquer la pauvreté, c'était le but officiellement assigné à la War on Poverty, la guerre contre la pauvreté de Johnson. C'est dans ce contexte qu'une certaine Molly Orshansky, donc cette statisticienne du ministère des Affaires sociales américain, a proposé de définir le seuil de pauvreté comme le coût d'un budget alimentaire de subsistance multiplié par 3. Alors pourquoi le coût d'un budget alimentaire de subsistance multiplié par 3? Eh bien, en fait, quelques années auparavant, une enquête avait montré que la famille américaine moyenne consacre à peu près un tiers de ses ressources, un tiers de son revenu à l'alimentation. Et dans le même temps, le ministère américain de l'Agriculture avait calculé le coût d'un budget alimentaire de survie. Et donc le raisonnement de Orshansky, c'est faire avec les données dont elle disposait, ça a été de dire, si une famille moyenne consacre un tiers de son revenu à l'alimentation, eh bien alors, trois fois le coût d'un budget alimentaire de survie, de subsistance, ça constitue une bonne approximation de la pauvreté. Cette proposition a été acceptée par la Maison Blanche et coulée dans une directive. Et donc, depuis les années 60, on a une directive qui demande à l'administration américaine de calculer chaque année le taux de pauvreté, c'est-à-dire la proportion de la population qui vit avec moins que le seuil de pauvreté tel que ce seuil a été défini. Alors l'indicateur américain de pauvreté, cet indicateur, c'est typiquement un indicateur de type absolu. C'est un indicateur de type absolu parce que le seuil est fixe. Ce seuil il n'évolue pas en fonction des changements du niveau de vie, des habitudes de consommation et des besoins. Tient compte de l'inflation, mais la valeur réelle du seuil est restée exactement la même depuis 50 ans. Parfois, une première image de la situation, quel est le taux de pauvreté officiel aux États-Unis et comment est-ce que ce taux a évolué au fil du temps? De manière très brève, la fin des années 50, au milieu des années 70, le taux a diminué de manière très rapide. Ce taux a chuté de plus de 20%, de 22% à 12%. Donc chute très rapide. Par contre, depuis le milieu des années 70, ce taux de pauvreté a largement stagné. Donc maintenant, ce taux il fluctue avec l'évolution du cycle économique. Ça fait qu'il oscille entre 12 et 15%. Alors maintenant, avec la grande crise économique qui a démarré en 2007, le taux a fort augmenté, a dépassé la barre des 15%. Mais ça reste dans, disons, la fourchette qui est celle qui persiste depuis 30 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 45 millions d'Américains qui vivent officiellement en situation de pauvreté, c'est-à-dire ont un revenu inférieur à 3 fois le coût d'un budget alimentaire de survie tel que ce budget avait été calculé par le ministère américain de l'Agriculture dans les années 50. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'Europe maintenant? Eh bien, de son côté, l'Union européenne a adopté un indicateur de pauvreté commun à tous les États membres il y a une dizaine d'années, donc beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. C'est dépassé en 2001 quand la Belgique assurait la présidence du Conseil. L'indicateur européen s'appelle l'indicateur de risque de pauvreté. Donc on ne dit pas que les personnes dont les revenus sont inférieurs au seuil retenu sont nécessairement pauvres, on dit que ces personnes sont en situation de risque accru de pauvreté. Ce seuil, il est fixé à 60% du revenu national médian. C'est la convention qui a été adoptée. Alors, le revenu national médian, c'est le niveau de revenu qui partage la population d'un pays en deux moitiés, en deux ensembles parfaitement équivalents. Donc, la moitié de la population a plus que le revenu médian, la moitié a moins. Et donc, d'après l'indicateur européen, toutes les personnes qui disposent de moins de 60% du revenu médian de leur pays sont en situation de risque de pauvreté. Cette mesure de la pauvreté, c'est typiquement une mesure de type relatif. Dans cet indicateur, on ne cherche pas à définir une nature ou une substance de la pauvreté qui serait intangible. Et la mesure ne se réfère pas non plus à la faim ou à d'autres besoins humains fondamentaux. Les indicateurs relatifs reposent plutôt sur le présupposé que le phénomène de la pauvreté, de la grande pauvreté, ne peut être compris que dans une société donnée et à un moment donné du temps. Alors, l'indicateur européen, plus spécifiquement, il vise à souligner l'importance de la privation économique relative. L'idée, c'est qu'on peut être considéré en situation de risque de pauvreté lorsqu'on est significativement à la traîne par rapport au niveau de vie moyen des gens qui nous entourent, des gens de son pays. Et c'est pour cette raison que, par hypothèse, dans le cas des indicateurs relatifs, eh bien, on a un seuil qui évolue avec le temps. 60% de revenus médians, ça évolue avec le temps pour refléter les évolutions du niveau de vie moyen. Donc, en bref, là où la mesure américaine met l'accent sur la quantité minimale d'argent qui est nécessaire pour ne pas mourir de faim, ça on fait les questions, bien, l'indicateur européen, lui, attache plus d'importance à l'idée de cohésion sociale. On considère que la pauvreté augmente quand l'écart entre riches et pauvres s'élargit. Surtout l'écart, surtout les positions relatives des riches et des pauvres qui y tiennent. Alors maintenant, pour terminer ce premier point, je pense qu'il est instructif de comparer les deux mesures au-delà de leurs philosophies respectives, philosophies qui sont très, très différentes. Quand Molly Orshansky, cette statisticienne du ministère américain des Affaires sociales, a calculé le seuil officiel américain au début des années 60, ce seuil était en fait à peu près égal à 50% du revenu américain médian de l'époque. On s'en est rendu compte après coup, ça correspondait à 50% du revenu médian de l'époque. Donc en fait, ce seuil n'était pas tellement loin de l'indicateur européen actuel. Par contre, aujourd'hui, 50 ans plus tard, le seuil de pauvreté américain, il n'équivaut plus qu'à 30%, en fait même à moins de 30% du revenu américain médian d'aujourd'hui. Donc ce seuil a très très fort perdu de sa valeur relative, parce que la croissance économique a élevé le niveau de vie, parce que les inégalités se sont considérablement accrues, etc. Donc le seuil, lui, c'est exactement le même, puisque c'est un indicateur absolu. Du coup, aux États-Unis, il y a beaucoup d'observateurs, donc des observateurs américains, qui doutent que la méthodologie officielle est toujours en mesure de refléter adéquatement, de manière fiable, l'étendue du phénomène de la pauvreté. Alors, une manière peut-être de donner une image plus juste de la situation, eh bien, c'est d'appliquer aux États-Unis l'indicateur européen de pauvreté. Et quand on fait ça, on découvre que le taux de pauvreté aux États-Unis, mesuré donc à l'européenne, il équivaut non pas à 15, mais à 25% de la population. Donc, aux États-Unis, il y a aujourd'hui une personne sur quatre qui vit avec moins de 60% du revenu américain médian. Par comparaison, le taux de risque de pauvreté en Europe est de 16% en moyenne, 15% en Belgique. Même si vous prenez les pays méditerranéens et les pays anglo-saxons, ce sont les pays européens qui connaissent les taux de pauvreté relatifs les plus élevés, même dans ces pays, on dépasse pas la barre des 20%. Alors, les États-Unis sont souvent considérés comme le pays le plus riche au monde, par contre, le PIB le plus élevé, mais toutes les comparaisons montrent que les États-Unis connaissent aussi, et très loin, la plus grosse concentration de pauvreté parmi les pays occidentaux industrialisés. C'est tout le paradoxe d'un pays globalement extrêmement riche, mais à l'intérieur duquel on a un segment très large, un segment énorme de la population qui est très largement exclu des standards de vie de la majorité. Alors, j'en arrive maintenant au cœur du sujet. Donc, quel est l'état général de la protection sociale aux États-Unis? Et pourquoi est-ce qu'en Europe, on dit souvent que les États-Unis n'ont pas vraiment d'état-providence, en tout cas un état-providence très, très minimaliste? Alors, pour commencer, on peut d'abord jeter un œil à une statistique très, très générale, tout à fait classique. Il s'agit de la part du PIB qui est consacrée aux dépenses de protection sociale. Donc, quelle est la proportion de la richesse nationale, quelle somme d'argent on investit chaque année dans la protection sociale. Là, le contraste entre l'Europe et les États-Unis est particulièrement marqué. Les États-Unis consacrent 16% de leur PIB à la Sécu, tandis que en Europe, dans l'Europe des 15, les États membres de l'Europe des 15 consacrent en moyenne 25%, un peu moins de 25% de leur PIB aux dépenses sociales. Donc, chez nous, on socialise un quart de la richesse nationale pour l'affecter à la protection sociale. Et même si on prend l'Europe post-élargissement, l'Europe des 27, la moyenne reste de 23% Donc, même en intégrant les pays de l'Est, qui ont des systèmes beaucoup moins développés que les nôtres, on reste largement supérieur aux sociétés anciennes. Première indication. Maintenant, il faut évidemment aller plus loin que cette première indication, et donc c'est pour ça que je vous propose, comme je vous l'ai dit, de parcourir maintenant les principales prestations qui composent le filet de sécurité sociale américain. Et pour ça, je vais, comme vous voyez sur le schéma, je vais de manière tout à fait classique, je vais distinguer entre les assurances sociales d'un côté et les prestations d'aide sociale de l'autre. Donc, je vais d'abord examiner les prestations, les mesures qui couvrent toute la population, en tout cas la majorité d'entre elles. Et puis, je vais me pencher sur les prestations qui sont explicitement ciblées sur les personnes les plus pauvres. Du côté des assurances sociales, je commence ce panorama, le programme le plus ancien et le plus important s'appelle Social Security. Alors, dans une perspective comparée, l'expression prête un peu à confusion, dans le sens où on comprend les conventions de l'OIT, qu'on regarde le droit social européen, qu'on regarde un autre pays anglo-saxon comme le Royaume-Uni, Social Security, qu'on voit traditionnellement au système de protection sociale dans son ensemble, donc le système avec les différentes branches, chômage, invalidité, pension, tout ce que vous voulez. Aux États-Unis, Social Security a une expression beaucoup plus, une signification beaucoup plus étroite, parce que grosso modo, ça désigne le système de pension. Et ce système a été mis en place dans les années 30, dans le cadre du fameux New Deal de Roosevelt. Le New Deal, c'est l'acte fondateur de l'État-providence américain. Alors, je vous ai dit que mon angle d'approche allait être la question de la pauvreté. Eh bien, sur ce plan, il est intéressant de noter que Social Security, programme américain de pension, a un effet anti-pauvreté important parce que le taux de remplacement, c'est-à-dire la proportion du salaire antérieur qui est versé sous la forme de pension, ce taux de remplacement varie inversement avec les revenus. Autrement dit, plus clair, les travailleurs à bas salaire reçoivent, lorsqu'ils arrivent à la retraite, une proportion plus élevée de leur ancien salaire que les travailleurs à haut revenu. Et donc, ce programme, ça a été souvent montré, a un effet redistributeur très, très important. Et de fait, aux États-Unis, le taux officiel de pauvreté des personnes âgées est beaucoup plus bas que le taux de pauvreté de l'ensemble de la population. En général, on s'accorde à dire que sur le terrain des pensions, il n'y a pas de première branche, première prestation, il n'y a pas de retard manifeste ou frappant des États-Unis par rapport aux pays européens. Deuxième secteur, les soins de santé. Là, par contre, les différences sont évidemment gigantesques. Alors, sur les soins de santé, comme vous le savez, les États-Unis n'ont jamais mis en place à ce jour un système d'assurance maladie universel, procurant une couverture financée solidairement à l'ensemble de la population. Et de ce point de vue, les États-Unis représentent vraiment un cas unique au sein du monde industrialisé, puisqu'ils sont les seuls, par le cas un peu particulier de la Suisse, ils sont les seuls à ne pas s'être dotés d'un tel système. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien du tout, contrairement à ce qu'on entend parfois en Europe et contrairement à ce qu'on peut voir dans les films de Michael Moore. Du côté des assurances sociales, donc je m'en tiens à cet instant, du côté des assurances sociales, il existe aux États-Unis un programme très important. C'est un programme destiné aux personnes âgées, de nouveau, il s'agit de Medicare. Ce programme Medicare a été créé en 65, sous Johnson, dans le contexte de cette fameuse guerre contre la pauvreté. Et en gros, ce programme, en fait, fonctionne de la même manière que l'assurance maladie à l'européenne. Donc, il rembourse les prestations, les dépenses de santé des personnes âgées de 65 ans et plus. Et ça concerne uniquement ces personnes. Pour ce qui est des personnes âgées de moins de 65 ans, eh bien, à moins qu'elles soient pauvres et considérées comme méritantes, je vais y revenir, à moins qu'elles soient pauvres et méritantes, les moins de 65 ans dépendent du marché et des sociétés d'assurance. Et en gros, les personnes en âge de travailler ont deux possibilités. Soit première possibilité, elles ont un employeur qui propose à ces travailleurs de leur payer une couverture santé. Ça, c'est la voie classique. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, l'emploi, c'est la porte d'accès traditionnelle à une assurance maladie. C'est ça la porte d'entrée principale dans le système.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'employeurs qui proposent une telle couverture santé à leurs travailleurs parce que le coût des primes d'assurance explose. Mais on voit aussi qu'aux États-Unis, la santé, c'est un business, c'est de l'assurance privée, leur but est de faire des profits. Première possibilité. La deuxième possibilité, si votre employeur vous propose pas une couverture, eh bien, c'est d'acheter une assurance santé directement auprès d'un assureur privé, sans passer par l'intermédiaire de votre employeur. Mais là, le problème, c'est que les polices d'assurance individuelles, les polices qui sont proposées sur le marché, présentent en général la caractéristique d'offrir une couverture très limitée, une couverture avec beaucoup de trous, et tout ça moyennant un coût complètement délirant. Donc, j'ai expérimenté, mon assurance santé coûte super cher, mais je ne pouvais pas aller chez le dentiste, ma femme ne pouvait surtout pas tomber enceinte, et le prix, c'était la moitié de la bourse que j'ai reçue pour partir. Hein, donc, ces assurances, ces polices d'assurance accessibles sur le marché dit individuel, elles sont complètement inaccessibles pour beaucoup de personnes qui ne se voient pas proposer une assurance par leur employeur. D'où le fameux problème des non-assurés aux États-Unis. Actuellement, il y a 16% de la population américaine, c'est-à-dire pratiquement 50 millions de personnes, qui ne disposent d'aucune couverture, ni publique ni privée, rien. Alors évidemment, ça va changer prochainement grâce à l'entrée en vigueur de la fameuse réforme Obama, donc ça je vais y venir. Mais ce que je veux encore souligner à ce stade, c'est que malgré ces 50 millions de personnes qui n'ont aucune couverture santé, le système américain de soins de santé pèse 17% du PIB. 17% du PIB, en perspective comparée, c'est absolument gigantesque. Tous les pays européens, on est dans une fourchette qui va de 8 à 12%. Et 8 à 12%, alors que chez nous, la couverture est universelle. Et dans le même temps, le niveau d'espérance de vie aux États-Unis est un peu inférieur à la moyenne de l'OCDE. Donc, ceci suggère qu'en termes comparatifs, le système américain de soins de santé, il est à la fois très coûteux, hyper coûteux, pas particulièrement efficace, et il est surtout très profondément extrêmement inéquitable. Troisième secteur, l'assurance chômage. Alors les deux programmes publics que j'ai mentionnés jusqu'à présent, donc Social Security et Medicare, ce sont deux programmes qui sont entièrement gérés par l'autorité fédérale, programmes fédéraux. Par contre, l'assurance chômage, elle, est principalement gérée et financée par les États. Donc, aux États-Unis, il y a 50 programmes étatiques d'assurance chômage. Alors, ces 50 programmes étatiques d'assurance chômage présentent, de mon point de vue, deux caractéristiques très frappantes d'un point de vue comparé. Première caractéristique frappante, c'est que la plupart des États, les 50 États américains, ont très fortement restreint les conditions d'éligibilité au fil du temps, surtout à partir des années 80 et de Reagan. Les États, par exemple, n'ont pas cessé d'augmenter le montant minimum qu'il faut avoir gagné par son travail pour avoir accès aux allocations de chômage le jour où on perd son emploi. Du coup, aux États-Unis, il y a aujourd'hui en moyenne seulement un chômeur sur trois qui touche effectivement les allocations de chômage. Donc le ratio entre travailleurs sans emploi et chômeurs indemnisés, ce ratio est extrêmement faible en perspective comparée. Et ce sont évidemment en particulier les travailleurs pauvres, ceux qu'on appelle les working poor, surtout les femmes et les gens de couleur, qui ne sont pas en mesure d'accéder, d'atteindre les conditions d'éligibilité, et donc ces personnes n'ont pas accès à l'assurance chômage en cas de perte d'emploi, alors que la fonction d'assurance chômage est précisément d'offrir un revenu de remplacement à ces personnes lorsqu'elles sont victimes d'une perte involontaire de travail. Première caractéristique. La bonne caractéristique frappante, de mon point de vue, de l'assurance chômage américaine, c'est que les allocations, ça varie évidemment selon les États, mais elles sont généralement limitées dans le temps à une durée maximale de 26 semaines, c'est-à-dire 6 mois. En Belgique, les allocations de chômage sont soumises à aucune limite dans le temps, mais c'est unique au monde, donc c'est un peu particulier. Mais il reste que, par comparaison, dans la plupart des pays qui nous entourent, les allocations de chômage sont accessibles pendant plusieurs années. Un an et demi, deux ans, trois ans, quatre ans, plusieurs années. Et généralement, une fois que la durée maximale est atteinte, il y a des systèmes d'assistance chômage qui prennent le relais. Des systèmes d'assistance chômage qui suppléent l'épuisement des allocations d'assurance. Il n'y a rien de tout ça qui existe aux États-Unis. Et donc, la protection contre le chômage, non seulement est difficile d'accès, il est difficile d'entrer dans le système, mais à supposer qu'on y accède, elle donne droit à une protection qui est quand même très limitée, très restreinte dans le temps. À côté des pensions, des soins de santé et d'assurance chômage, la quatrième branche classique des assurances sociales sont les allocations familiales. À ce niveau, tous les pays européens, même que le Canada, organisent le versement d'allocations familiales, les allocations aident les parents à faire face aux coûts que représente la charge d'enfant. Souvent, le montant est modulé en fonction du nombre d'enfants, en fonction du statut social ou professionnel des parents, donc c'est s'accorde à considérer, et les chiffres le montrent, que c'est vraiment un instrument majeur de lutte contre la pauvreté. Comment est-ce que ça se présente aux États-Unis? La réponse est simple, il n'y a pas d'allocation familiale. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Donc ici, contraste évidemment justement le plus marqué entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est notamment cette absence d'allocation familiale qui explique que les États-Unis connaissent un taux de pauvreté infantile, la pauvreté des enfants, qui est de nouveau beaucoup plus élevé que dans les pays européens. Dernier secteur à examiner, dans le même sens que je viens de vous dire à propos des allocations familiales, il n'existe pas de congé de maternité payé aux États-Unis. En tout cas pas au niveau fédéral. Quelques États comme la Californie sont un peu à part, mais au niveau fédéral, il n'y a pas de congé de maternité payé. Et encore une fois, c'est tout à fait unique, mais cette fois-ci unique pas au sein uniquement du monde industrialisé, unique à l'échelle du globe. Hein, les États-Unis sont l'un des seuls pays au monde, en compagnie du Lesotho et du Botswana, à pas garantir à toutes les mères une protection aussi fondamentale que le droit de prendre un congé suite à un accouchement, tout en conservant une partie de son salaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos, assez rapidement, à propos des assurances sociales. Alors maintenant, je vais entreprendre faire le même exercice avec les prestations d'aide sociale. Donc par définition, toutes les prestations que je vais passer en revue maintenant sont soumises à un test sur les ressources. Ce sont les means tested benefits. Il faut montrer qu'on est pauvre, qu'on est dans le besoin pour y avoir accès. Et vous allez voir que l'indicateur américain officiel de pauvreté est en fait très souvent utilisé pour déterminer les conditions d'éligibilité. Hein, donc cet indicateur, il est très critiqué, il a ses limites, mais il faut bien voir que juridiquement, il joue un rôle très important parce qu'il ouvre des droits, donne droit à des prestations. Ce n'est pas le cas en Europe chez nous, l'indicateur de risque de pauvreté est uniquement un indicateur statistique qui permet de mesurer la situation. Je commence avec le programme qui est de loin le plus important en termes de dépenses, c'est Medicaid. Medicaid, ce programme, vise à procurer un accès aux soins de santé aux personnes pauvres, plus exactement à certaines catégories de personnes pauvres. Medicaid a été créé en 1965, donc en même temps que Medicare, le programme pour les personnes âgées, toujours dans ce fameux contexte de la guerre contre la pauvreté. Mais il y a une différence importante, c'est que là où Medicare est entièrement fédéral, Medicaid, lui, est le fruit d'un partenariat entre l'État fédéral et les États, et donc, là aussi, comme en matière de chômage, il y a 50 programmes Medicaid. Au sein de chaque État a mis en place son propre programme. Qui est couvert par ce système, Medicaid? C'est très technique, mais en bref, il existe des groupes obligatoires et des groupes optionnels. Les États sont tous obligés de couvrir les groupes obligatoires, tandis qu'ils ont le choix d'étendre ou pas leur couverture santé minimale, Medicaid, aux groupes optionnels. Dans les groupes obligatoires, on trouve par exemple les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans dont le niveau de revenu est inférieur à un certain pourcentage de la ligne de pauvreté. Par exemple, les femmes enceintes qui ont moins de 100%, dont les revenus sont inférieurs à 100% de la ligne de pauvreté, les enfants de moins de 12 ans dont les revenus sont inférieurs à 133% de la ligne de pauvreté, groupes qui sont définis comme ça. On trouve aussi des personnes invalides et dont les revenus sont inférieurs à 75% de la ligne de pauvreté. Donc, tout cela doit être couvert. C'est tous des groupes très définis de manière assez restrictive. Des pauvres considérés comme méritants, femmes enceintes, enfants, invalides. Il y a des groupes optionnels, les États peuvent aller plus loin, ils ne le font pas beaucoup, et surtout, à côté des groupes obligatoires et des groupes optionnels, il y a un groupe qui est exclu par le droit fédéral, il s'agit des adultes sans enfants. Les personnes adultes en âge de travailler sans charge familiale ne peuvent pas avoir accès à Medicaid, quel que soit leur niveau de revenu. Ceux-là doivent se débrouiller par eux-mêmes pour trouver une assurance santé. Donc au total, cette construction, ce montage assez, assez complexe explique qu'il y a des trous majeurs aux États-Unis dans la couverture médicale des personnes les plus pauvres. Ça varie de nouveau assez fort d'un État à l'autre, mais à l'échelle du pays, il y a moins de la moitié des personnes officiellement en situation de pauvreté qui sont couvertes par Medicaid. Moins de la moitié. Maintenant, comme vous le savez, tout le paysage américain des soins de santé va être assez profondément remodelé par la mise en œuvre progressive de la fameuse réforme adoptée sous Obama en 2010. Alors, je vous explique que le sujet est très complexe, donc je vais tracer assez succinct là-dessus. Alors, sur les soins de santé, il faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a de très nombreuses tentatives qui ont été faites pour réformer le système américain de soins de santé. Donc, aux États-Unis, on est quand même conscient qu'il y a une particularité par rapport aux autres pays. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives, mais jusqu'à la présidence Obama, tous les projets de réforme successivement élaborés ont échoué. Tous ces projets ont échoué, principalement en raison d'une opposition entre progressistes et conservateurs. Les progressistes, la gauche américaine étant favorable à une couverture universelle financée solidairement, donc une couverture à l'européenne. En fait, la gauche américaine voulait, depuis 65, que Medicare, le programme pour les personnes âgées, soit étendu à l'ensemble de la population. Par contre, les conservateurs et tout le lobby des médecins et des assureurs, eux, au contraire, voulaient étendre encore davantage le champ des assurances privées et surtout faire en sorte que ce marché des assurances privées reste le moins régulé possible. Ça, c'est le contexte. C'est dans ce contexte-là, il faut bien tenir compte de cet élément, que tout compromis élaboré par l'administration Obama, démocrate, ça a été de renoncer à la vieille revendication du camp progressiste pour s'appuyer plutôt sur une régulation, une re-régulation du marché des assurances privées déjà en place, déjà existant. C'est ça toute l'originalité de la construction du Obamacare, c'est de s'être appuyé sur essentiellement le marché des assurances privées pour tenter d'atteindre une couverture quasi universelle qui est l'objectif des démocrates. Pour l'essentiel, les moyens préconisés par l'administration Obama étaient en fait essentiellement empruntés aux républicains et à des think tanks conservateurs. C'est là qu'ils ont été pris de leurs idées. Ça n'a pas empêché les républicains de s'opposer au processus de réforme, la première à la dernière minute, en dénonçant une socialisation du système de médecine, etc. Donc un parcours législatif extrêmement conflictuel. Finalement, la loi est adoptée en 2010. C'est une loi mammouth, une loi qui compte plus de 1200 pages. Et il faut avoir en tête que ces dispositions phares n'entrent pas en vigueur avant 2014. Donc maintenant, on s'approche, mais il y a 3 ans que la loi a été votée. Les dispositions principales, les plus importantes, ne sont pas encore en vigueur. L'objectif premier du Obamacare, c'est d'accroître l'accès aux soins de santé. L'accessibilité, c'est le focus de la réforme. Et pour essayer d'atteindre cet objectif, l'Obamacare fait 2 choses. D'un côté, la réformer assez profondément le marché des assurances privées. Et à côté de ça, parallèlement, la loi a aussi élargi de manière assez substantielle Medicaid, le programme pour les pauvres. Pour ce qui concerne le marché des assurances privées, premier de 2 grands volets de la réforme, la stratégie qui a été adoptée par l'administration a visé à encadrer beaucoup plus fermement qu'auparavant les pratiques des assureurs privés, tout en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qu'auparavant qui s'assurent auprès d'assureurs privés. En régulation des pratiques des assureurs, la disposition phare, c'est que les compagnies d'assurance ne vont plus pouvoir refuser de couvrir des personnes qui ont un mauvais état de santé, ce qu'elles font maintenant tous les jours. Elles ne vont plus non plus pouvoir différencier le montant des primes si le candidat a un mauvais état de santé. Parfois, elles les acceptent, mais alors moyennant le paiement de primes pour un montant complètement délirant. Donc ça, c'est terminé. Un mauvais état de santé ne pourra plus constituer un motif de discrimination acceptable. Mais alors, parallèlement, pour essayer de compenser les coûts qui vont être générés par cette interdiction de la discrimination, la loi a introduit dans la législation une disposition qui est la disposition la plus emblématique de la réforme. Ça, on s'en parlait beaucoup dans la presse, c'est le fameux individual mandate, une obligation individuelle. ce individual mandate, ce qu'il fait, c'est qu'il oblige les individus à maintenir en permanence pour eux et leur famille un niveau minimum de couverture santé. Tous les citoyens doivent se débrouiller pour avoir une couverture d'un certain niveau, que ce soit une couverture publique, une couverture privée, une couverture par leur employeur, peu importe, ils doivent se débrouiller. Là, l'objectif poursuivi par ce mandat, qui était donc une idée républicaine à la base, c'est de pousser les personnes, généralement jeunes et en bonne santé, qui ne s'assurent pas tant et aussi longtemps qu'ils sont en bonne santé, les pousser sur le marché des assurances privées, pour ramener de nouvelles primes d'assurance aux assureurs privés, faire en sorte que ceux-ci puissent alors maintenant couvrir toutes les personnes qui sont maintenant obligées de couvrir. Et le dernier élément du puzzle, mais donc juste un petit très fort, vraiment un montage très, très complexe, dernier élément du puzzle du côté régulation du marché privé, c'est que la loi a prévu le versement aux personnes à bas revenus de subsides. Donc les personnes à bas revenus sont obligées, comme les autres, de faire en sorte de se débrouiller pour avoir une assurance santé, mais elles reçoivent des subsides de l'État fédéral pour pouvoir s'acheter l'assurance privée. Ça, c'est ce que l'Obamacare a mis en place du côté des assurances privées. Du côté des programmes publics, Medicare, programme pour les personnes âgées, n'a pas connu de modification fondamentale. Par contre, la réforme prévoit un élargissement majeur de Medicaid, le programme pour les pauvres. Donc, Medicaid est maintenant vraiment appelé à devenir l'ultime filet de sécurité. Ce que la loi fait là-dessus, c'est qu'elle va supprimer toutes les catégories familiales existantes, donc les femmes enceintes, les invalides, les enfants de moins de 6 ans, les enfants de moins de 18 ans. Supprime tout ça, et à leur place, la loi demande aux États de mettre en place une protection de base, dans le sens où les États vont devoir rendre éligibles à leur programme Medicaid tous les individus et toutes les familles dont les revenus sont inférieurs à 133% de la ligne officielle de pauvreté. Toutes les personnes en dessous de 133% de la ligne officielle auront accès à Medicaid. Voilà, donc dans l'ensemble, avec ces deux volets, la mise en œuvre de la réforme devrait avoir pour effet de réduire drastiquement le nombre de personnes sans couverture médicale. C'est l'objectif numéro un de la réforme. Il y a des personnes qui vont rester non assurées, par exemple les personnes éligibles à Medicaid qui ne vont pas aller s'inscrire. Il y a un certain nombre d'États, en particulier dans le Sud, qui ne cachent pas qu'ils vont mettre en place des barrières pour dissuader les personnes pauvres de venir s'enrôler, s'inscrire, alors qu'ils y ont droit. Ne seront pas couvertes non plus les personnes qui sont visées par le individual mandate mais qui ne respecteront pas l'obligation de s'assurer, donc on n'est pas encore dans une couverture universelle. Enfin, malgré tout, la couverture santé va être étendue très substantiellement et rendue plus accessible pour des millions d'Américains qui, pour l'instant, n'ont aucune couverture. Maintenant, simplement une observation d'un point de vue comparé sur l'Obamacare. Contrairement à ce qu'on a souvent, parfois dit, disons, dans la presse, dans les médias, tout le montage mis en place par l'Obamacare ne représente pas vraiment une européanisation du système américain de soins de santé. Il y a bien un accent, il y a une rhétorique politique qui tourne autour de l'accessibilité, de l'universalité, mais les États-Unis n'ont pas mis en place une assurance maladie publique unique qui couvre toute leur population. Donc, c'est pas ça qu'ils ont fait. Les États-Unis vont continuer à s'appuyer principalement sur le marché des assurances privées pour faire en sorte que la majorité de leur population ait un accès aux soins. Et donc dans l'ensemble, c'est clairement une réforme favorable au marché. On pousse la majorité de la population à faire en sorte qu'elle se fournisse en prestations de santé sur le marché. Simplement, toute l'originalité de cette réforme, ça a été de réorganiser en même temps le marché des assurances pour essayer de faire en sorte qu'il fonctionne de manière un peu plus solidaire. Voilà ce que je peux vous dire sur la réforme des soins de santé de 2010 qui va donc maintenant bientôt entrer en vigueur. Alors, je passe maintenant à la deuxième prestation d'aide sociale. Il s'agit du Supplemental Security Income. Alors, cette prestation, peu importe le nom évidemment, alloue une aide aux personnes qui sont handicapées et dans le besoin. En fait, le noyau dur des bénéficiaires de cette prestation est constitué d'indigents, comme disent les Américains, d'indigents qui souffrent de troubles de la santé mentale, Donc là-dedans, il y a beaucoup de, en particulier, beaucoup de vétérans, parfois très jeunes, qui sont revenus un peu troublés par ce qu'ils ont vu dans les diverses guerres illégales que mènent les États-Unis. Mais alors ici, justement, le point important, c'est que les conditions à remplir pour bénéficier de ce Supplemental Security Income sont très sévères. Très sévères, parce que pour être considéré comme indigent, comme étant dans le besoin, il faut avoir des revenus inférieurs à 75% de l'indicateur de pauvreté, indicateur qui est déjà extrêmement bas, et pour être considéré comme handicapé, il faut réunir les deux conditions, il faut parvenir à prouver une incapacité médicale d'entreprendre toute activité lucrative pendant au moins un an. Incapacité médicale totale pendant au moins un an. Donc ce Supplemental Security Income, il est de facto réservé aux personnes qui sont à la fois très pauvres et complètement incapables de travailler. Alors à ce stade, la question qui se pose, c'est du coup, qu'est-ce qu'il est prévu pour tous les autres pauvres, tous les pauvres qui ne sont pas soit malades, soit handicapés. Chez nous, tous les pays européens, pays de l'Est inclus, la solution qui a été adoptée, c'est la mise en place d'un revenu minimum résiduaire, un revenu minimum du type minimex chez nous. Donc il s'agit de procurer une prestation revenu de base, un revenu minimum, à toutes les personnes qui sont les plus pauvres et qui n'ont accès à aucune autre prestation sociale. Ça ne va pas vous surprendre, il n'y a rien de tout ça aux États-Unis. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. En fait, au lieu d'un revenu minimum du type minimex, revenu quasi universel, on trouve aux États-Unis deux prestations distinctes pour les personnes en situation de grande pauvreté. Mais le point important, c'est que toutes les deux prestations ont été très significativement réduites au cours des deux dernières décennies. La première prestation, c'est ce que les Américains appellent le welfare. Welfare aux États-Unis, ça veut dire aide sociale pour les familles avec enfants. Cette aide sociale a été très drastiquement réformée au milieu des années 90, à l'époque de Clinton. Avant la réforme, il existait un programme qui datait du New Deal et qui s'appelait l'AFDC. Peu importe, cette prestation, ce AFDC, octroyait de l'aide en argent aux familles pauvres. Dans les faits, la grande majorité des bénéficiaires étaient des mères seules. Et parmi ces mères seules, les Afro-Américaines étaient très clairement surreprésentées. Ça, aux États-Unis, c'est jamais anodin. Qu'est-ce qui arrive à cette prestation? Eh bien, à partir de Reagan, les conservateurs n'ont pas cessé d'attaquer celles qu'ils ont appelées, baptisées les welfare queens, c'est-à-dire toutes ces mères célibataires noires qui abuseraient de la solidarité, se prélasseraient dans la paresse en mode de vie défiant. Donc la rhétorique politique qui est employée est assez dure. En 1996, les Républicains ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès, pour la première fois depuis Roosevelt, et avec le soutien très clair de Clinton, qui était pourtant démocrate, ils ont abrogé AFDC, et l'ont remplacé par une nouvelle prestation. Le nom de cette nouvelle prestation est révélateur, et résume bien l'intention, il s'agit de la Temporary Assistance for Needy Families, l'assistance est temporaire. C'est le point central. Et cette réforme est probablement la réforme la plus controversée dans l'histoire de l'État-providence américain. En très bref, le principal changement, c'est que la nouvelle loi impose une limite maximale à l'octroi de l'aide sociale de 5 ans sur la vie de chaque individu. Donc à partir de 18 ans, le compteur commence à tourner. Il ne peut pas toucher l'aide sociale pendant plus de 5 ans sur l'ensemble de sa vie adulte. C'est à nouveau, à ma connaissance, c'est vraiment unique parmi les pays occidentaux. Je connais aucun pays européen où l'aide sociale de dernière ligne, pas les allocations de chômage, mais le dernier rempart, est soumis à une lifetime limite après laquelle il n'y a plus rien. Et en plus de ça, l'octroi de la prestation est conditionné à des exigences de mise au travail qui sont très sévères. Il faut impérativement travailler. Pas seulement être disposé à travailler, être disponible pour le marché de l'emploi, comme c'est le cas chez nous. Il faut travailler, par exemple, ramasser des papiers dans la rue pour toucher la temporary assistance. Donc l'idée, c'est le travail contre l'aide sociale. Quel effet concret de cette réforme? L'effet le plus frappant, c'est d'abord une chute complètement vertigineuse du nombre de bénéficiaires, moins 60% en quelques années, donc c'est nouveau une chute pas d'équivalent en Europe. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a un nombre croissant aujourd'hui de mères seules et pauvres qui vivent dans la marginalité la plus totale. Ces mères seules n'ont plus droit à l'aide sociale, parce qu'elles ont épuisé leurs droits aux prestations, parce qu'elles ont été sanctionnées pour non-respect des exigences de workfare, donc d'obligation de travailler. Mais ces mères seules n'ont pas non plus réintégré le marché de l'emploi, généralement parce qu'elles sont confrontées à une accumulation de difficultés diverses. Exemple, la charge d'enfants, problème d'assuétude, instabilité du logement, de niveau de formation très faible, etc. C'est pour ça que chez nous, l'aide sociale existe. Et donc, dans le nouveau système américain, ces mères seules et leurs enfants, elles sont tout simplement abandonnées elles-mêmes. Donc, la chute vertigineuse du nombre de bénéficiaires, c'est vrai que quand on voit les statistiques, c'est assez sidérant. Ça ne veut pas dire que les familles américaines pauvres sont plus pauvres. Ça cache le fait qu'il y a plus de familles pauvres que jamais, qui sont maintenant complètement privées d'assistance minimale et qui doivent mettre en place des stratégies de survie. Je vous lis la littérature ethnographique qui dépeint les conditions d'existence dans les ghettos, les ghettos afro-américains des grands centres urbains aux États-Unis. C'est assez vrai. Et enfin, il y a une dernière prestation sous condition de ressources que je dois mentionner. Il s'agit de la General Assistance, l'assistance générale. Alors, le welfare dont je viens de parler, c'est destiné aux familles, tandis que l'assistance générale, elle, vise les adultes sans enfants. La particularité de cette prestation, et la raison pour laquelle, à grande surprise aux États-Unis, on en parle presque jamais, c'est que l'État fédéral n'existe aucune supervision sur ce programme. C'est uniquement aux 50 États qu'il revient de mettre en place ce système ou pas. Du coup, dans la littérature, on n'en parle pas. Tandis que quand on vient en Européen, aux États-Unis, pour essayer de chercher les équivalents, par la recherche du minimum, c'est évidemment ce type de prestation qu'on cherche. Ici, l'évolution à laquelle on a assisté, elle est de nouveau très frappante. Pas plus tard qu'au milieu des années 90, il y a 40 des 50 États qui disposaient d'un programme d'assistance générale. 40 sur 50, les 10 autres se trouvaient tous dans le sud. Aujourd'hui, il ne reste déjà plus que 30 de ces 40 programmes étatiques. Et surtout, parmi les programmes qui ont survécu, presque tous ont fait l'objet de coupes vraiment très, très substantielles. Et là, l'évolution la plus répandue a consisté en fait à exclure de la prestation toutes les personnes jugées aptes au travail et employables. Terminé pour ces personnes, le champ de l'assistance générale est maintenant, dans la plupart des États, restreint uniquement à ceux qu'ils appellent les inemployables. Et en plus de ça, les allocations proprement dites sont devenues d'un montant extrêmement faible. À Los Angeles, par exemple, où j'étais, l'assistance générale s'élève à $221 par mois, ce qui correspond à 175 euros par mois. Et j'ai l'occasion de passer une réunion dans le CPS de Los Angeles, pour vous dire que l'expérience, je m'en souviens. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'États qui ont opté pour une solution bien plus radicale encore, dans le sens où récemment, certains États ont tout simplement complètement démantelé leur système du jour au lendemain. L'Illinois, par exemple, l'État de Barack Obama, a mis fin à son programme en 2011. Et donc, du jour au lendemain, il y a 10 000 personnes à Chicago qui se sont retrouvées sans plus aucun revenu. Terminé, ça s'est passé alors que les États-Unis connaissaient leur crise économique la plus grave depuis la Grande Dépression des années 30. Je fais un petit bilan de cet aperçu. Alors, en résumé, je pense qu'on peut dire que les personnes âgées sont plus ou moins bien protégées en perspective comparée. Elles sont couvertes par Social Security et par Medicare. Ce sont les deux programmes les plus importants dans l'État-providence américain, sont les plus populaires. Et ces deux programmes sont universels. Dans le sens où ils ne cherchent pas, contrairement à ce que font tous les autres, c'est leur obsession, ils ne cherchent pas, eux, à établir une distinction entre les méritants et les non-méritants. À côté de ça, les politiques sociales américaines se préoccupent aussi d'assurer un certain soutien aux enfants pauvres, et dans une moindre mesure aux mères pauvres. On leur procure un accès aux soins de santé et à un peu d'aide sociale. Troisièmement, les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d'un handicap bénéficient aussi d'une certaine couverture sociale, mais la définition juridique du handicap est extrêmement restrictive. Et enfin, dernier groupe, les adultes sans enfants en âge de travailler, ceux-là sont très largement abandonnés à eux-mêmes. Ce sont vraiment les non-méritants par excellence, et donc le système offre très peu de possibilités pour eux. Donc, sur cette base-là, au total, paraît difficile de ne pas considérer le système américain comme faible, et même comme très faible en comparaison. Ça qui explique en partie la persistance de taux de pauvreté extrêmement élevé. Hein, donc, de ce point de vue, il y a incontestablement de bonnes raisons d'éteindre l'État-providence américain comme un État-providence résiduaire, un État-providence limité. Tout ça étant dit, et j'entre maintenant dans la troisième et dernière partie de mon exposé, tout ça étant dit, je pense que l'État-providence américain n'est pas aussi minimaliste qu'on le dit et qu'on aime à le dire en Europe. Alors pour essayer de vous montrer ça, je vais maintenant un peu changer de regard. Maintenant, je pars plus à la recherche de répliques aux dispositifs de sécurité sociale qu'on connaît le mieux, qui sont les mieux établis en Europe. Maintenant, je regarde le système américain en cherchant à mettre en exergue les composantes qu'on n'en voit pas, tout simplement parce que ces composantes ne sont pas familières. Et donc, sans remettre en cause ce que j'ai dit jusqu'à présent, simplement un peu compléter et nuancer en attirant l'attention sur un certain nombre de mécanismes qui sont presque systématiquement négligés. Je vais précisément pointer trois ensembles de politiques qui n'ont pas de véritable équivalent en Europe, mais qui jouent un rôle très important, qu'on les aime bien ou pas, qui jouent un rôle très important dans la manière dont l'État-providence fonctionne et est pensé aux États-Unis. Une première catégorie de prestations qui mériterait à mon sens de faire l'objet de plus d'attention, c'est la catégorie des prestations en nature. Donc, prestations en nature par opposition aux prestations en cash, les prestations en argent. Alors, chez nous, en Europe, à part en matière de soins de santé, évidemment, les prestations en nature ne représentent plus une part très, très significative des systèmes de protection sociale. Les soins en nature, ça, c'est comme un parfum du 19e siècle et de charité. Donc, c'est plus trop notre truc. Aux États-Unis, par contre, les prestations en nature continuent à jouer un rôle important. Il y a en particulier un programme d'aide en nature qui joue un rôle majeur. Il s'agit des food stamps, c'est-à-dire les bons alimentaires. Alors ce programme, qui est fédéral, procure une aide alimentaire aux personnes considérées comme dans le besoin. Dans le besoin, et ici le seuil d'éligibilité, les conditions de ressources, équivalent à l'indicateur officiel de pauvreté. Donc moins de 100% de la ligne de pauvreté, vous avez accès aux food stamps. Ces food stamps sont longtemps existés sous la forme de coupons en papier qu'on pouvait échanger dans les magasins comme de la nourriture. Maintenant, c'est transformé en équivalent de carte bancaire. On passe la carte dans la machine à la sortie du magasin. Depuis le début de la récession, la grande récession économique qui a démarré en 2007, le nombre de bénéficiaires de ces bons alimentaires a véritablement explosé. Le nombre a doublé depuis 2007, de sorte que actuellement il y a un Américain sur 7 qui vit sur les food stamps. Un sur 7. Ça a d'ailleurs valu à Barack Obama d'être baptisé par les Républicains le Food Stamps President. C'était les gens sur le l'aide alimentaire. Alors, tout ça pourrait paraître un peu moyenâgeux. Ça l'est sans doute si vous me demandez mon avis, mais ce que je veux simplement souligner ici, c'est qu'il s'agit d'une prestation sociale dont les conditions d'éligibilité sont relativement larges, par contraste avec les autres prestations, et son existence, son accessibilité pour les personnes pauvres relativise un peu l'absence de minimum. C'est un mécanisme auquel on peut accéder plus ou moins facilement, qu'on peut cumuler au welfare, et donc, qu'on soit séduit ou pas par cette aide en nature, je ne suis pas, mais ce n'est pas la question, les food stamps, d'un point de vue comparé, joue en partie le rôle de minima social, en partie le rôle d'aide sociale résiduaire. premier exemple. Un second ensemble, souvent un peu même systématiquement négligé par les Européens, regroupe ce qu'on appelle les crédits d'impôt. Ici, un exemple frappant, c'est une prestation qui s'appelle le Earned Income Tax Credit, le EITC dans le jargon. Ce EITC est un crédit d'impôt qui vise à soutenir les bas salaires. Alors en fait, le principe est très simple. Si vous travaillez, mais que vous gagnez moins qu'un certain niveau, vous recevez de l'argent du fisc au lieu d'avoir à payer l'impôt sur le revenu. Donc, c'est un crédit d'impôt remboursable, un impôt à l'envers. EITC, le programme américain, a pour effet à la fois de rehausser les bas salaires et d'encourager le travail. La prestation encourage le travail parce que le crédit d'impôt est conditionné à l'exercice d'un emploi. Plus on travaille, plus le fisc américain ajoute de l'argent pour gonfler vos payes. Ce programme a été très fortement étendu au fil du temps, et particulièrement dans les années 90, sous Clinton. Donc là, je pense qu'il est important de préciser que Clinton, il s'est fait faire ériger en partisan du détricotage du welfare, mais en même temps, il a beaucoup défendu la nécessité d'accroître le soutien financier aux pauvres qui travaillent. Qui travaillent, ça c'est l'obsession. Donc on a détricoté l'aide sociale de dernière ligne accessible aux non-working poor, les gens qui ne travaillent pas, les noirs célibataires. Par contre, en même temps, il y avait l'idée que le travailleur le pauvre qui travaille, lui, il faut le soutenir. Et depuis, ce programme, EITC, est devenu le programme d'aide sociale le plus important aux États-Unis après Medicaid. Aujourd'hui, il y a 20% des ménages américains qui en sont bénéficiaires. 20%. Donc c'est un chiffre très important, et chaque année, ce programme fait passer au-dessus de la ligne de pauvreté des millions de travailleurs. Pour une famille, par exemple, avec 3 enfants, le fisc américain ajoute 45 cents à chaque dollar gagné par son travail. Chaque dollar gagné, 45 cents supplémentaires, donc c'est quand même un taux de majoration assez important. Donc là aussi, il faut bien voir que dans les faits, ce programme joue aux États-Unis un rôle beaucoup plus important que les prestations d'aide sociale à l'européenne. Quand on regarde en européen, on part à la recherche d'un équivalent du minimum, comme je le disais. Donc on identifie le welfare, on identifie l'assistance générale, on voit que c'est misérable. Pour les Américains, le social welfare, l'état-providence, c'est plus ce type de mécanisme. Ici, un crédit d'impôt qui soutient les personnes à bas salaire, mais qui travaillent. Et donc souvent, pourtant, quand un Européen regarde l'état-providence américain, il ne voit pas ce type de programme parce que, simplement, ça n'existe pas chez nous, ça ne nous est pas familier. Or, ça ne plaît ou pas, il est important de le prendre en compte pour comprendre analytiquement comment ça fonctionne. Et enfin, il y a un troisième et dernier ensemble de mesures qu'on a un peu tendance à négliger. Ça fait aussi partie de la fiscalité, c'est ce qu'on appelle les réductions d'impôts à finalité sociale. Réduction d'impôts à finalité sociale, ce sont des exemptions fiscales qui visent à encourager la couverture privée de risques sociaux. Et de nouveau, cette technique est très abondamment utilisée aux États-Unis. Le meilleur exemple dont on dispose pour cette catégorie-ci, ce sont les exemptions d'impôts très importantes qui soutiennent les plans de retraite et les assurances santé financées par les employeurs pour leurs travailleurs. Aux États-Unis, les contributions aux plans médicaux et aux plans d'épargne liés à un emploi sont très largement exemptées d'impôts sur le revenu. Et grâce à ces subsides fiscaux, beaucoup d'Américains, évidemment ceux qui bénéficient de bonnes conditions de travail, évidemment, qui ont accès à toute une panoplie de prestations complémentaires liées à leur travail. Ce qui s'appelle les fringe benefits. De bénéfices complémentaires. Alors qu'en Europe, ce type de couverture complémentaire privée reste pour l'instant beaucoup plus marginal parce qu'on a la sécurité sociale obligatoire. Or, évidemment, j'ajoute tout de suite que l'État-providence privée, toutes ces couvertures complémentaires qui sont encouragées fiscalement, elles sont beaucoup plus inégalitaires que l'État-providence publique. On sait très bien, les chiffres montrent que les dépenses fiscales bénéficient massivement à la classe moyenne supérieure et plus encore aux super riches, tandis que les très pauvres, eux, en bénéficient très peu. ces exemptions fiscales à but dit social, elles permettent à ceux qui ont des revenus d'avoir une épargne plus grosse encore, tandis qu'elles n'aident pas beaucoup ceux qui n'ont rien à la base. Et c'est pour cette raison que toutes ces dépenses fiscales font l'objet de beaucoup de critiques aux États-Unis du côté des liberals, c'est-à-dire du côté de la gauche. Alors, de nouveau, à mon sens, ces critiques sont largement fondées. On peut aussi les appliquer à ceux qui en Europe défendent l'importance d'étendre les épargnes pension complémentaires, les couvertures santé privées. Mais ici, si je m'en tiens à une perspective descriptive, le point important pour moi, c'est qu'aux États-Unis, il faut bien voir que l'ingénierie fiscale remplit en partie le rôle joué en Europe par la Sécu pour un segment précis de la population, le segment plus privilégié. Et ça, de nouveau, on a tendance à ne pas le voir si on cherche uniquement la simple réplique de ce qui est question. Je conclue. Alors, pour terminer par là où j'avais commencé, au final, qui avait raison à propos de l'État-providence américain et en particulier ses politiques de lutte contre la pauvreté. Mais d'un côté, si vous avez compris que si j'étais américain, mais je ne suis pas américain, je ne serais pas fier, contrairement à mes promis, de l'état du système de protection sociale. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de raison d'être préoccupé par le sort des pauvres. Et en tout cas, tout est évident, dire que les États-Unis deviennent une société des droits acquis, une société de la système. C'est évidemment un peu grotesque, parce qu'on va exactement dans la situation inverse dans la direction inverse depuis deux décennies. Mais d'un autre côté, si je maintiens un regard de comparatif, nous, Européens, nous sommes peut-être parfois un peu trop snob et condescendants quand nous gargarisons du fait que nous serons les seuls à avoir un État-providence, qu'on formule à leur sujet un jugement de valeur positif ou pas. Il existe aux États-Unis toute une série de mesures de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Et c'est pas parce que ces mesures ressemblent pas à ce qu'on connaît chez nous que ces mesures n'existent pas. Et c'est ça qui m'amène à conclure en citant Peter Baldwin, un historien américain. Peter Baldwin est l'auteur d'un ouvrage récent qui est intitulé de manière un peu provocante et même irritante pour les Européens fiers de l'être comme moi, intitulé « En quoi l'Amérique et l'Europe sont semblables ?» Et Baldwin écrit, alors il pousse un peu trop loin, mais à mon sens il met quand même un point, il dit « La principale faiblesse de la politique sociale américaine, c'est sa réticence à affronter résolument le problème de la pauvreté, ça me paraît indéniable, mais malgré tout, dit Baldwin, malgré tout, comparer les États-providence américains et européens signifie identifier différents types de politique sociale plutôt qu'une simple alternative binaire entre absence et présence. J'en ai fini.
Donc, je cède la parole à Katia Merci beaucoup d'avoir invité à discuter de cette présentation. La première chose que je voudrais dire, c'est que ça fait plaisir d'avoir une présentation nuancée. j'admire le travail qui a été nécessaire pour, je pense, d'un point de vue européen, comprendre la complexité de l'État-providence aux États-Unis. Vraiment, je suis impressionnée. Et effectivement, ce que j'apprécie, et c'est souvent un peu ce qui est frustrant, quand on entend les Européens peu informés, se croyant très informés, parler des États-Unis, c'est justement cette vision un peu caricaturale. Et là, vraiment, ça a complètement été à l'encontre de ça, et donc ça fait plaisir. J'ai essayé de structurer un peu ce que j'allais dire, mais je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit à la fin en disant il y a un peu cette vision européenne de supériorité morale un peu par rapport aux États-Unis sur la question de l'État-providence, enfin du système de sécurité sociale de manière générale, entre autres, le port d'armes, mais autres, etc. Et je voudrais dire deux choses sur ça. C'est que premièrement, il ne faudrait pas trop se gargariser parce que le détricotage du système de sécurité sociale en Europe est en cours. Et que par exemple, notamment, l'idée d'être des pauvres méritants, on est en plein débat sur ça au Royaume-Uni avec la réforme notamment du logement social par Cameron, etc., où on oppose en fait les catégories sociales, la petite classe moyenne, je dirais, et les plus pauvres, donc sur l'idée du mérite, du travail, etc., on est en plein dedans. Donc ça, c'est la première raison de ne pas trop se gargariser. La deuxième raison, et ça va me permettre d'enchaîner sur mes facteurs explicatifs de ces différences, c'est que ce n'est pas parce que l'Europe a une supériorité morale qu'elle a ce système de sécurité sociale, c'est parce que les éléments politiques étaient radicalement différents entre les États-Unis et l'Europe. Alors, des éléments politiques, quand je dis politique, c'est au sens large, c'est histoire politique, institution politique, culture politique, mais effectivement tout ça se retrouve et ce sont des facteurs interdépendants. Donc je vais essayer de faire vite, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc je risque peut-être de caricaturer un peu. Incise simplement, les personnes âgées sont les plus protégées aux États-Unis, les personnes de plus de 65 ans, comme ça a été très très bien démontré. Et par contre, c'est le groupe d'âge qui vote le plus pour le parti républicain. Donc c'est un peu, je rentre et je ferme la porte derrière moi. Voilà, donc, bon, l'avantage, c'est qu'il y a des... à l'âge justement qui fait que les États-Unis deviennent un pays plus favorable aux candidats démocrates, notamment dans l'évolution démographique dont je pourrais peut-être vous parler plus tard. Mais donc, j'ai essayé de structurer mes explications en quatre facteurs. La première, c'est les origines. Il faut bien se rendre compte que la différence, enfin on parle toujours de différence entre l'Europe et les États-Unis, mais la fondation des États-Unis était un acte de volonté politique. De volonté politique des pères fondateurs et leur volonté politique marquée par deux éléments, donc un, leur libéralisme politique, mais deuxièmement, des facteurs sociologiques, c'était des bourgeois, des propriétaires terriens, des propriétaires d'esclaves. Cette fondation politique, elle informe encore énormément la politique américaine aujourd'hui. J'y reviendrai. C'est la constitution américaine est la plus ancienne constitution écrite encore en utilisation. Il y a une grande stabilité de la politique américaine, paradoxalement. Et donc, on est encore aujourd'hui influencé par les actes des pères fondateurs. Et au niveau de ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est la peur des factions. Chez ces personnages, bon, c'est deux choses. C'est la peur des factions, et c'est deux choses qui sont liées, la peur des factions et la peur des masses, la plèbe. Enfin, il y avait les pères fondateurs américains étaient des libéraux, ils étaient républicains, donc sauf qu'ils n'étaient pas monarchiques, mais ils n'étaient certainement pas démocrates. Et une faction, pour eux, c'est un groupe. Même un groupe majoritaire, aujourd'hui, dans un langage moderne, on parlerait des 99% un peu. Hein. Donc même les 99% ne peuvent pas imposer leur volonté sur la minorité. Donc pour éviter ça, ils créent un système politique particulièrement fragmenté. Ça c'est la première chose, ce qui fait que toute réforme est extrêmement difficile. Si vous avez suivi Obamacare, c'était incroyablement difficile, 2 ans pour faire passer une réforme, et c'est à cause de la fragmentation du système. Une chose, par exemple, c'est l'équilibre entre l'exécutif et le législatif. Obama n'a pas pu imposer sa volonté au Congrès, et le Congrès ne peut pas non plus imposer sa volonté à la Maison-Blanche, donc on a un équilibre entre ces deux institutions qui fait qu'on arrive très rapidement à un blocage. L'idée étant d'éviter que la majorité impose sa volonté aux minorités, du coup on en arrive aujourd'hui dans une situation politique extrêmement divisée, où on a un blocage pratiquement systématique. Ça, c'est la première chose, donc la fragmentation du système politique. La deuxième chose, c'est la mise en place de tribunaux très indépendants, beaucoup plus indépendants qu'ils ne le sont en Europe, indépendants de l'influence politique. Alors, c'est une anecdote célèbre, mais Roosevelt essayait de faire passer ses réformes du New Deal et la Cour suprême bloquait systématiquement. Donc, Roosevelt a dit, bah, c'est très simple, le nombre de juges à la Cour suprême est fixé par la loi et non pas dans la Constitution. Je vais demander au Congrès d'élargir le nombre de juges à la Cour suprême et puis je vais nommer des gens qui me sont sympathiques et j'aurai la majorité. Du coup, la Cour suprême s'est dit, oups, ils ont changé leur position, mais de manière générale, la Cour suprême a toujours été très hostile à la mise en place d'une politique sociale fédérale. Donc, par exemple, en 1895, la Cour suprême a décidé que la création d'un impôt sur le revenu, d'un impôt national sur le revenu, était anticonstitutionnelle puisque le gouvernement fédéral n'avait pas la compétence. Il a fallu amender la Constitution, ce qui est une procédure extrêmement longue et complexe, pour qu'on puisse créer juste un impôt sur le revenu. Donc on n'en est pas non plus à une redistribution massive, la collectivisation des biens, enfin. Donc voilà, un système politique fragmenté, des tribunaux très indépendants et un gouvernement fédéral faible, donc tout ça s'imbrique. L'émergence du gouvernement fédéral aux États-Unis, c'est vraiment qu'à partir des années 30. Au 19e siècle, le gouvernement fédéral reste très très faible, notamment le pouvoir exécutif au niveau fédéral. Et donc ce n'est qu'avec le New Deal et un peu cet électrochoc qui fait que petit à petit, le gouvernement fédéral réussit à mettre en place des politiques publiques nationales. Je cite toujours un exemple, l'exemple du port de la ceinture de sécurité qui semble quelque chose de complètement anodin. Le gouvernement fédéral n'a pas la compétence pour imposer le port de la ceinture de sécurité sur le territoire des États-Unis. C'est une compétence qui reste aux États. Et donc, ce que le gouvernement fédéral a dû faire, c'était un chantage au financement de la réfection des routes pour obliger les États à passer des lois sur le port de la ceinture de sécurité. Donc à chaque fois qu'on essaye de mettre en place une politique publique nationale, la question de la compétence du gouvernement fédéral se pose puisque la Constitution crée une compétence limitée pour le gouvernement fédéral. La dernière chose, et j'ai déjà fait allusion sur ses origines, c'est la sociologie des pères fondateurs qui sont donc, on peut utiliser une terminologie d'époque, des bourgeois, et dont l'objectif principal n'était pas l'égalité, mais plutôt la protection de la vie de la propriété privée, et donc on voit bien ça dans la Constitution, et donc l'accord des masses, etc. Le deuxième élément, c'est un élément qui est à la fois lié aux origines, mais qui trouve aussi sa traduction dans l'histoire du 19e siècle aux États-Unis, c'est le fédéralisme, ce que j'appelle, à défaut d'un meilleur terme, c'est le fédéralisme tendu. C'est-à-dire de relations qui fluctuent, mais qui sont plus ou moins tendues entre les États et le gouvernement fédéral. Alors, le paroxysme de cette tension, c'est évidemment la guerre civile, mais on est toujours dans une situation de ce qu'on appelle « state rights », où la Constitution prévoit qu'a priori, les compétences qui ne sont pas expressément dévolues au gouvernement fédéral restent du domaine des États. Et donc, notamment, tout ce qui est politique sociale reste du domaine des États. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis, justement, il y a une décentralisation des politiques sociales, qu'il faut que le gouvernement fédéral doit passer des accords de coopération, entre guillemets, avec les États, notamment pour la mise en place de Medicaid, par exemple. Et donc, c'est extrêmement complexe de mettre en place une politique sociale qui soit universelle et unifiée. Il y a une grande variation entre les États. Je pense que Hawaï a un système presque à l'européenne de protection sociale depuis les années 70. Et puis ensuite, on a les États du Sud profond où il n'y a absolument rien. Donc, il y a une grande variation entre les États. Un deuxième héritage, et j'ai pensé en entendant l'exposé, c'est un héritage de la guerre civile, c'est l'héritage raciste. Je pense qu'il y a un élément majeur, c'est que les minorités sont surreprésentées dans la catégorie sociale les plus défavorisées, et qui donc sont surreprésentés dans, chez les bénéficiaires de ces politiques sociales. Et donc il y a quand même un élément de refus de solidarité, entre guillemets, avec ces populations. Un des exemples, c'est ce qu'on appelle le white flight dans les, à la fin de, dans les années 50-60. Le white flight, c'est la fuite des Blancs qui ont quitté les centres-villes urbains et sont partis s'installer dans les banlieues. Le problème, c'est que l'assiette fiscale de ces centres urbains a complètement été dilapidée. Enfin, disons, il y avait, on a laissé les pauvres noirs entre eux et les blancs sont partis s'installer dans les banlieues qui souvent étaient des villes différentes. Et donc, il n'y avait plus de redistribution géographique. Donc, un des exemples, justement, c'est la ville de Chicago, ça c'est complètement... donc voilà, donc le problème aussi, de, l'idée de mise en place d'un système social basé sur la solidarité se heurte donc quand même à cet héritage raciste, et on voit bien même aujourd'hui, 2013, dans la rhétorique chez certains républicains, on voit bien quand même, en fait, quand on parle de... Oui.
J'ai reconsulté le net l'histoire de là, quand en fait il y avait Walter Evans qui fait un reportage avec la femme Security Administration pour justement faire passer les programmes Roosevelt et justement les aides à toutes les populations qui sont là. Et est-ce qu'il y a eu la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu ce genre de légitimation de la politique de Obama avec des photographes, avec de l'art, et ça a aidé beaucoup, notamment à conscientiser un peu les esprits à l'école sur le bienfait de la France Security Administration.
C'est vrai que là, il a essayé autre chose, et c'est tant,
mais ils ont très très mal communiqué sur l'Obamacare. Ils ont essayé, enfin, il y avait, il y a eu tout un, des publicités qui ont été faites à la télévision. Notamment, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, mais, enfin, dans l'hystérie, d'une certaine partie des républicains, ça s'est un peu noyé, mais donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des spots télé où ils montraient, voilà, telle personne, souvent des femmes d'ailleurs, blanches, on lui refusait une assurance maladie, son assureur privé l'a lâché parce qu'elle avait un cancer du sein, et avec Obamacare, il ne pourra plus faire ça, etc. Ou j'ai perdu ma mère par un cancer du sein, et les assureurs... Et d'ailleurs, bon, c'est une histoire personnelle qu'a vécu Obama, sa mère... passer ses derniers jours à se battre pour ça, pour que ses soins de santé soient remboursés, alors qu'elle était en train de mourir d'un cancer du sein. Donc, ils ont essayé un peu de faire un récit, enfin, ça c'est vraiment chez Obama ce qui est marquant, hein, c'est l'utilisation du récit. Ils ont essayé d'en faire un récit, le problème c'est que, et je comprends la stratégie qui a été une mise en place progressive de la loi, mais elle est toujours impopulaire. Enfin, elle divise toujours. C'est à peu près 50-50. Les opinions négatives sont un peu en train de baisser. De plus en plus de gens disent, je sais pas ce que c'est, exactement. Alors qu'on s'attendrait à ce qu'avec le passage du temps, au contraire, les gens se familiarisent, mais,
C'est vrai que la loi a été votée en 2010 après un parcours, hyper long et conflictuel. Mais alors que l'entrée en vigueur des dispositions phares était portée à 2014, donc les gens n'ont pas perçu, et pour l'instant toujours pas, les effets bénéfiques. Et donc c'est vrai quand même, j'ai entendu que l'administration Obama aussi essayait des town hall meetings, ils allaient dans des petits bleds, des villages, organiser des soirées d'information. Là, à chaque fois, des groupes bien organisés du petit parti occupaient la moitié de l'assemblée, se transformaient en vigile. Donc sur la guerre médiatique pour essayer de défendre ou déconstruire la réforme, si de dire que les démocrates ont gagné la partie. Enfin, dans les sondages, j'ai déjà vu des chiffres, jusqu'à il y a peu, grosso modo, une petite majorité des Américains étaient contre l'Obamacare.
Et si on leur pose la question sur les mesures individuelles, ils sont d'accord. C'est-à-dire, si on ne dit pas Obamacare, on dit juste, est-ce que vous êtes d'accord pour que les assurances ne puissent plus discriminer contre les personnes qui ont des conditions préexistantes? Oui, majoritairement. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les enfants puissent rester assurés par leurs parents jusqu'à l'âge de 27 ans? Oui, majoritairement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette en place ce qu'on les appelle des bourses d'échange? C'est-à-dire, en fait, dans un sens, accroître la concurrence entre les assureurs. Parce que c'était ça aussi, hein, à un moment donné, s'il n'y avait plus, la concurrence ne jouait pas parce qu'on ne pouvait pas, si on habitait dans l'Ohio, on ne pouvait pas aller acheter une assurance qui était moins chère en Californie parce que la Californie, c'est un plus gros marché, etc. Et donc, les primes étaient moins importantes. Non, on était obligé d'acheter dans l'Ohio et donc il y avait toujours un assureur historique qui dominait le marché, souvent lié avec des hôpitaux. Enfin, c'était... Donc là, ils vont créer des bourses d'échange, ça va faire baisser les prix aussi. Donc quand on pose ces questions-là individuellement, oui. Le problème, c'est quand on demande Obamacare, il y a une réaction négative et donc là, c'est bien la preuve que c'est les Républicains qui ont réussi à frame the debate. Donc juste pour finir un peu, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je trouve ça sympa quand c'est plus interactif. J'avais fait référence à la stabilité du système, et donc là, ça c'est un élément de différence très important par rapport à l'Europe. Alors je vous renvoie à un article qui a été écrit en 2001, hein, oui, par trois chercheurs américains, qui s'appelle « Why don't the United States have a European style welfare state ?» donc ça, voilà. C'est Alberto Alesina, Edward Glaser et Bruce Sassosé. Et eux, ils ont fait un travail quantitatif vraiment intéressant. Ils ont établi, par exemple, une corrélation importante entre le fait d'avoir une constitution récente et le taux de redistribution. Donc, par exemple, la France, qui a une constitution récente, elle a un taux de redistribution élevé. En fait, c'est toutes les constitutions qui ont été rédigées après l'émergence des droits de troisième génération, enfin la prise de conscience de droits de troisième génération. Et quand on voit que les États-Unis sont encore gouvernés par une constitution du XVIIIe siècle, ou alors l'idée de l'égalité de conditions, c'était vraiment pas quelque chose qui était pensable, enfin pensé à l'époque. Donc ça, c'est un des éléments. La deuxième chose qu'ils ont montré, c'est la corrélation, là aussi dans les pays de l'OCDE, une corrélation importante entre la densité démographique et la redistribution. Pourquoi ? Parce que si on a une densité démographique, on a une pression des couches populaires. Et aux États-Unis, on a une densité démographique qui est faible, premièrement. Deuxièmement, on a une capitale qui est isolée des masses populaires. Donc, par exemple, il n'y a pas eu de révolution aux États-Unis après 1776, mais il y a eu des révoltes, et notamment des révoltes urbaines, et il y en a encore, mais c'est dans les grands centres urbains, donc c'est à New York, c'est à Los Angeles, c'est à Chicago, c'est à Detroit, etc. C'est ça à Washington DC, par exemple. Et donc le centre du pouvoir, contrairement à Paris ou Londres, n'a jamais été sous la menace presque physique des hordes barbares, entre guillemets, et donc on va faire voter des lois qui vont permettre une pacification sociale. Il n'y a pas eu 1789, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu la commune, enfin il n'y a pas eu un ensemble de choses comme ça. Donc la stabilité du système. La stabilité du système, c'est ce qu'elle fait aussi, elle fait que le mode de scrutin aux États-Unis, bon, il y a toujours eu deux gros partis, et donc il n'y a pas vraiment la possibilité d'émergence, je ne rentre pas dans les détails du mode de scrutin, en fait. Mais il n'y a pas de proportionnel. Là aussi, dans ce cas-ci, ils font une corrélation dans les pays de l'OCDE, là aussi, entre la proportionnelle et le taux de redistribution. Des pays qui connaissent la proportionnelle ont un taux de redistribution. Pourquoi ? Parce que la proportionnelle permet à des catégories défavorisées d'accéder à la représentation politique. Et donc aux États-Unis, il n'y a jamais eu l'émergence, enfin, il y en a eu certains, mais il n'y a jamais eu l'émergence de réels partis tiers. Il n'y a pas eu de parti socialiste ou de parti social-démocrate. Il y en a eu, mais ils n'ont jamais été électoralement puissants. Donc, en Europe, beaucoup, si on regarde la mise en place de, je parle sans contrôle, mais la mise en place des systèmes de sécurité sociale, souvent ça a été fait même par des gouvernements de centre droit, en réaction pour essayer d'assurer une harmonie sociale, pour essayer de défaire le terreau des partis communistes.
En Allemagne ou en France.
Voilà, en Allemagne. Voilà, donc ça, on n'a pas du tout eu ça aux États-Unis parce qu'il n'y a pas eu le Parti communiste ou le Parti socialiste puissant. Et quand il y a eu l'émergence de la gauche, ben, on les a très bien réprimés. Et puis, donc ça, c'est un peu... donc le mode de scrutin, c'est qu'il y a un certain conservatisme en France, mais une alternance simplement entre deux partis. Et donc les partis anti-système, entre guillemets, ont du mal à émerger ou sont absorbés par les partis dominants. Donc par exemple, ce qu'a très bien fait le Parti démocrate dans les années 30, 40, 50, c'est vraiment absorber la gauche américaine, et donc avec la mise en place du New Deal, etc., essayer de... Mais tout ça a été très vite de tous côtés, notamment à partir, de plus en plus à partir des années 80. Et le dernier facteur que je trouve, et là on rentre plus, enfin il y a des éléments sociologiques mais des éléments culturels aussi, c'est l'immigration et la mobilité. Donc les États-Unis sont un pays d'immigration, mais alors là, ce qui est intéressant, c'est on pourrait considérer qu'il y a presque un biais de sélection, dans le sens où les Européens qui sont partis, alors ça c'est une hypothèse, hein, c'est pas du tout... était souscrivait à cet American Dream, à l'idée de l'égalité d'opportunité et non pas une égalité de conditions. Alors, c'est juste une hypothèse, mais ça pourrait être... et ce qui accroît ça, c'est l'idée de l'expansion et donc la migration intérieure. Si, avec l'élargissement à l'Ouest, si on est dans une situation économique on va parler d'anecdotes, mais l'histoire de ma famille, c'est exactement ça. On est dans une situation économique difficile, ben on part chercher du travail ailleurs plutôt que de rester et de s'énerver et de s'organiser et de rejoindre un syndicat, un parti politique, etc. On part. Et donc il y a cette ethos individualiste qui traverse un peu la société américaine. Ce qui est très intéressant, et là il n'y a pas de facteur explicatif, mais c'est quelque chose qui a été révélé par les sociologues là récemment, il y a un article je crois dans le New York Times sur ça, c'est que cette mobilité pour suivre l'emploi, elle est en baisse. Alors on ne sait pas pourquoi. Par exemple, donc, le taux de chômage c'est 7,5%, il y a des villes où c'est beaucoup plus élevé, Detroit vient à l'esprit, mais il y a des endroits où il y a le plein emploi, hein, notamment les villes dans le Texas ou dans le Nebraska, etc., là où il y a le boom... du pétrole et du gaz, du schiste, il y a le plein emploi et pourtant cette mobilité des Américains, c'est un élément historique, est en baisse et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Mais ça, c'est un élément aussi qui fait qu'on n'a pas de concentration de masse de pauvreté et d'organisation parce qu'on reste quand même dans des stratégies individuelles de survie. Et le dernier élément qui est lié à l'immigration, et ça je pense que c'est un élément intéressant, c'est la fragmentation ethnique de la classe ouvrière. L'absence, enfin il y a eu plusieurs tentatives d'explication de la faiblesse du mouvement socialiste et communiste aux États-Unis, et un des facteurs explicatifs, c'est la fragmentation des ouvriers selon leur catégorie ethnique, et notamment donc l'opposition entre les protestants et les catholiques dans un premier temps, mais aussi entre les Italiens et les Irlandais, entre les Blancs et les Noirs, ça c'est vraiment un élément important. Ce qui fait que les mouvements socialistes et communistes ont été faibles, mais aussi qu'il y a une faiblesse relative des syndicats. Voilà, donc ça c'était un peu quelques remarques pour essayer de comprendre les divergences.
Sur l'immigration, c'est pas aussi notre hypothèse à être formulée sur le fait que, à partir du moment où il y a une population immigrante qui arrive, eh bien, au vu que les low skills c'est moins amené à des revendications, donc quelque part, c'est une sorte de service perpétuel qui arrive et donc, du coup, les conditions de salaire ne vont jamais augmenter. C'est un peu le jeu qu'on trouve. Sur la marginalisation, j'ai une question dans la protection sociale, pour revenir un peu au communiste, c'est ce que Chomsky avait dit. Alors, je ne sais pas de quel programme particulier parlait de la protection sociale, mais c'était à partir du moment où il y avait tellement de produits différents proposés par les assureurs, que ça devenait très compliqué pour un employeur de choisir et que tous les gros employeurs ont à un moment donné demandé justement au gouvernement d'organiser quelque chose de public à choisir parce que ça devenait vraiment impossible. Il fallait choisir un département qui s'occupe rien de ça dans la société. Donc c'était quasi une externalisation vers le public de par une fragmentation des marchés qui faisait en sorte qu'on s'en sortait plus. Il y a des éléments là-dessus sur cette marchandisation.
Bah, je sais que dans les négociations d'Obamacare, autour d'Obamacare, je sais que ça a été, en fait, il y avait une opposition entre les patrons de PME et les grosses entreprises. Effectivement, les grosses entreprises étaient plutôt favorables à ce qu'ils appellent un single payer, enfin un système plus à l'européenne, parce que ça leur faisait faire à la limite des économies, notamment en frais d'administration, quoi. Mais non, la situation de Chomsky, je la connais pas, mais c'est vrai que bon, un des problèmes, quand je parle de frais d'administration, c'est une aussi des réformes d'Obamacare, c'est que les assurances, il y a un seuil maximum de remboursement que les assurances pourront faire à leurs investisseurs et de dépenses qu'elles pourront faire en termes de frais d'administration. Parce que je pense qu'on en était arrivé à des choses quand même aberrantes où c'était 80% des primes qui allaient. Voilà, des choses comme ça. Et donc là je crois que ça, voilà, il faut que ça soit 80% des primes soient dépensées pour les remboursements de frais de santé. Et c'est une rationalisation du système parce que c'est ça coûte extrêmement cher aux États-Unis pour un retour sur investissement qui est pas bon, quoi. Mais juste sur il faut aussi il y avait juste sur deux ou trois choses, notamment l'espérance de vie, la pauvreté infantile. Il y a aussi un élément du fait que les États-Unis restent un pays d'immigration. D'immigration importante et d'immigration pauvre, donc notamment de pays d'Amérique latine, ce qui explique aussi, c'est un des facteurs explicatifs de la pauvreté infantile, un des facteurs, hein, vraiment, et notamment de l'espérance de vie qui est plus faible, parce que parmi les communautés immigrées récentes, on a une espérance de vie plus faible et une pauvreté plus importante, notamment ceux qui sont là illégalement.
On prend cette fois-ci les deux questions.
Ah oui, pardon.
Oui, et il y en a trois encore. Donc, comme ça, parce que sinon ils ne pourront pas les poser. Et c'est comme ça, vous.
Merci.
J'ai une question sur l'autre. Je voudrais revenir sur l'équité. J'ai bien compris dans l'entreprise. Il y a une forme de partenariat entre l'État fédéral et les États qui s'est élevé du jeu, et l'État peut aussi être assuré à mettre sur pied une certaine forme de sécurité sociale. Et ma question est peut-être très naïve, mais ce serait pas dans l'État fédéral peut-il imposer l'État fédéral de mener des politiques déterminées. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose, parce que j'ai l'impression que ce système qui est encore présent à l'heure actuelle dans la forme de la qui oblige quand même, et encore dans le fondement d'Obama, l'oblige à mettre une protection sociale qui est encore plus forte. Je m'interroge justement sur la base juridique, sur une telle influence, parce que si on agit par exemple, c'est une chose qui serait très mal vue. Et je ne demande pas véritablement de la base juridique.
La question de
Merci de tous les deux d'avoir pris en tout cas la même position sur ce qui pour moi est un élément essentiel mais qui n'est jamais mis en avant dans les débats un peu poussés comme on est maintenant sur la comparaison des systèmes. C'est effectivement le fait que, par comparaison, les flux financiers et publics et privés générés par la protection sociale aux États-Unis et sur le continent européen sont à la limite incomparables dans la mesure où si on fait la balance économique, le système américain est forcément catastrophique parce qu'il coûte effectivement infiniment cher pour des degrés de prestations qui n'ont absolument rien à voir non plus. Ce qui fait d'ailleurs dire au patron aussi que s'il faut mettre dans la balance de la comparaison certains mécanismes fiscaux comme notamment ce crédit d'impôt, ça montre aussi un autre gouffre qui est que, donc, si j'ai bien compris, c'est donc un crédit d'impôt qui vise à lever le salaire qui n'est pas suffisamment payé par les employeurs. Donc ça aussi, c'est toute une différence socio-juridique globale qu'il faut tenir, qu'il faut avoir. Donc pense que c'est dans le lien avec l'organisation des relations sociales en général. Parce qu'il n'y a pas photo. Dès lors que si les syndicats aux États-Unis, les syndicats sont très puissants, mais les syndicats professionnels, ils ne sont pas du tout organisés sur base interprofessionnelle et le patronat non plus d'ailleurs. Donc je pense que tout ça est infiniment lié à l'organisation générale des relations sociales aussi. Entre ce qu'on appelle en pratique le modèle belge de concertation sociale, même s'il ne se porte pas très bien, c'est des éléments, c'est moins qu'on puisse dire. Malgré tout, il est quand même très largement, là je ne trouve pas que l'Europe et les États-Unis, mais en tout cas Belgique et les États-Unis, le système belge de concertation sociale est un facteur institutionnel déterminant pour expliquer pourquoi nous avons tel système de sécurité sociale et pourquoi ce n'est pas le même système aux États-Unis. Mais ce qui m'a frappé quand même, et cette étude de 2001, je ne connais pas du tout, qui a l'air de faire une corrélation savante entre le caractère récent de la Constitution et le degré de performance du système social. Je dire, c'est parfaitement n'importe quoi.
Pour vous, la Constitution, ça l'est.
Justement, avec ma lecture un peu d'analyse économique aussi, c'est. Certes, ce qu'on appelle les vraies constitutions économiques en Europe sont récentes. On était en France en 1946, parce qu'il faut quitter le régime de Vichy, c'est en Italie parce que forcément il faut rompre avec le fascisme, c'est en Allemagne parce qu'il faut rompre avec 15 ans de nazisme. Ça c'est tout à fait clair. Je ne veux pas moins que la première vraie constitution économique, et donc magnifique sur la protection sociale comme en Allemagne pour la droite, la constitution de Weimar en 1939, ainsi que je vois. Il n'a rien empêché les catastrophes que nous avons connues par après. J'ai une constitution empêchée les catastrophes économiques, sociales et liées, ça serait. Mais en attendant, je pense que la.
Mais elle a quand même 130 ans de moins que la constitution américaine. La constitution.
Ah,
donc, c'est le 19e siècle qui change
tout. Tout à fait, mais justement, si je prends encore. En Belgique, il n'y a jamais eu dans la Constitution de grandes proclamations disant il faut un système de sécurité sociale, ceci ou cela. C'est le grand argument qui est fait en 1919, quand on est passé du suffrage censitaire au suffrage universel. Et que la vraie coopération est à la fois politique, sociale, économique, tout arrive cette année-là en 1919, parce qu'on sent tout d'un coup le système de suffrage, tout de suite on sent que politique sociale et on sent la structure générale. De la fiscalité, puisque c'est seulement au tiers de 119, donc après combien 24 ans de retard sur l'impôt sur le revenu aux États-Unis, c'est au tiers de 119 qu'on crée l'impôt progressif sur le revenu. Et donc la vraie corrélation, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut la chercher, et c'est pas simplement facialement en 15 ans, en croyant que c'est des constitutions de la fiscalité. C'est vraiment justement une liste de très peu de choses, c'est vraiment en faisant le parallèle entre l'organisation du vote. L'organisation générale de la fiscalité et l'organisation générale des relations sociales. Et alors, effectivement, quand on fait la comparaison de chacune des branches entre l'Europe en général, le Belgique en particulier et les États-Unis, c'est clair, ça explique de manière structurée pourquoi il y a tant de différences. Parce que là, finalement, je trouve que ça peut expliquer ce que tout le monde a dit. C'est pas une critique, mais je pense que les économistes seraient bien chaque fois de.
Mais il y a toujours des outliers, c'est ce qu'ils vont dire. Ah, il y a un outlier. Voilà.
Vous avez bien parlé de plus de pauvreté que de l'inégalité. Ça marche parfait aussi, mais c'est déjà l'objet de la thématique. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, dans la philosophie anglo-saxonne, on se préoccupe vraiment de ceux qui sont tous en bas, alors que dans les philosophies plus européennes, on attend des interrogations sur les inégalités. Quand on voit par exemple les travaux des économistes français sur ce genre de sujet, on a l'esprit des inégalités. Et justement, sur le cas des inégalités aussi, alors les institutionnalistes européens et américains, elle a aussi relativisé. J'avais montré dans un des cours la part des 0,1% des 1% les plus riches dans le revenu national total. Quand on compare l'Europe et les territoires européens, c'est exactement la même chose. Donc, avant 1913, ils sont tous très très hauts, très inégalitaires. qui vous avez à partir de la naissance, d'un coup des parents, à 45, 45, 45, vous pouvez vous ajouter l'Europe, c'est quasiment la même chose, vous avez même notamment l'Allemagne, la base des plus riches et plus importants dans le national des États-Unis. Et puis effectivement, après Ronald Reagan, ça commence à remonter sa trajectoire et maintenant aux États-Unis, on arrive au niveau de 1970. Alors qu'en Europe, nous pouvons rester justement dans un système assez. Il y avait un dernier petit point sur lequel je m'interrogeais, c'est vous parler de la détérioration en tout cas du système à partir justement de Ronald Reagan, etc. Mais en même temps, si vous vous souvenez, vous avez parlé des statistiques au début, vous avez parlé du taux de pauvreté, c'était 22% à l'époque des années 50, descendu à 12, puis vous avez dit grosso modo, ça va faire la même chose, malgré toute cette détérioration, on reste dans les 12-15% aux États-Unis. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont pauvres sont devenus beaucoup plus pauvres, et que globalement,
mais la stagnation de la pauvreté, elle a commencé à partir de la volonté des années 70, c'est-à-dire Carter juste avant Reagan. Donc c'est quand même, on était déjà plus très loin. Et puis alors à mon avis, l'explication tient au fait que l'indicateur de pauvreté, l'indicateur officiel est biaisé. La pauvreté relative a continué à se dégrader après 75. Par contre, l'indicateur officiel, comme il est axé sur cette évaluation, cette estimation du coût d'un budget alimentaire de survie à la fin des années 50, si les écarts bougent, ça n'empêche pas que, comme on a dit, l'explication, il y a l'indicateur qui saute à la réalité. Donc.
Et vite comme ça, il faut aussi répondre à quelque chose.
Oui, oui.
Okay. Alors, moi, j'avais juste deux petits points de compréhension et une question qui sera officielle des deux. Sur les pensions, je vais tenir, parce que quand on voit cette ligne, ça peut déjà travailler souvent sur ce marché super élevé. Donc, même le train, c'est peut-être de voir que. Parce que c'est déjà tout près, et donc, c'est de voir si vous comprenez le. Deuxièmement, l'immigration, pour revenir à ce qui a été dit, moi je suis choisie en fait parce que je vois l'immigration, c'est vraiment fort choisi aux États-Unis. Donc une très grande sélection, y compris les compétences anti-élèves, pour me dire en fait finalement que on prend plus des cours que d'autres, et moi j'en ai, voilà, peut-être des cours magistraux, mais c'est vraiment, il faut que c'est bien sûr un niveau, je vais voir s'il y avait des informations sur l'immigration aux États-Unis. Et le troisième point, c'est en effet, avant cette mission qui disait, c'était la question pour moi de l'investissement, en fait, plutôt de lycée européen vers le système américain, notamment à l'égal des organisations sociales, des organisations sociales, qui sont pour moi un peu apogées, parce qu'il y a sérieusement quand même des organisations sociales, des employeurs, des demandeurs, des gagnants de la plus que les mouvements sociaux, ça ne va pas non plus trop important. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des ordres de gros avec le transfert de la question familiale, l'identité générée, que lui, on va les transférer, et c'est pas juste pour les transférer sur ce lieu, mais aussi pour compenser pour nous le magasin d'ailleurs. Et là, c'est qu'on allait faire la vie fiscale, en fait, on dit que oui, globalement, il y a quand même des pays qui sont. On n'était pas encore là, mais il y a quand même des chances d'évoluer de la façon de ce type-là. Donc voilà, c'est des questions que je vais réfléchir.
Alors,
j'avais une question, il y en aura
plus
d'autres.
Répondez-en. Kevin, la raison, le montage qui explique Medicaid, en fait, c'est le fédéralisme américain, mais donc, moi, je sais pas si c'est là, mais est complètement différent de notre fédéralisme à nous. Et donc, la base juridique sur laquelle s'est appuyé l'État fédéral pour légitimer le fait qu'ils octroient de l'argent moyennant la mise en place d'un certain nombre de choses exigées, c'est le spending power. Mais donc chez nous, c'est pas possible, ça tendrait pas la route, il y a une égalité totale entre l'État fédéral et les entités, mais donc aux États-Unis, c'est cette construction-là. Ils ont pouvoir de dépenser, la Cour suprême, à partir de Johnson, a accepté que l'État fédéral pouvait donner de l'argent aux États en disant vous avez cet argent, mais moyennant le respect d'un certain nombre de conditions. Maintenant, dans le cas de Medicaid, donc j'ai dû aller vite, j'ai un peu simplifié, la Cour suprême ici a un peu écorné le dispositif dans l'arrêt sur l'Obamacare de juin 2012 en disant que les conditions qui étaient attachées à l'argent fédéral étaient trop exigeantes, allaient trop loin. Et donc, dans son arrêt Obamacare, la Cour suprême a validé le fameux individual mandate comme question individuelle, ça n'a pas plus d'objection sous l'angle constitutionnel. Par contre, l'extension de Medicaid est bien. Et donc, le résultat est que le dispositif est un peu fragilisé. En fait, les États peuvent maintenant étendre leur population éligible à toutes les personnes qui vivent avec moins de 133% du seuil de l'indicateur officiel de pauvreté, mais ils ne sont plus obligés de le faire. simplement dans les faits, il y a fort de chances qu'ils le fassent parce que l'extension est presque intégralement financée par le fédéral.
Tu vois ?
Oui, je voulais préciser, c'est quand même très important pour répondre à ta question, qu'à la base, Medicaid est un partenariat entre le fédéral et les États, mais c'est un programme volontaire, donc les États ne sont pas tenus, ils l'ont tous fait, donc c'est pour ça qu'on mentionne plus cet élément, mais ils ne sont pas obligés de... Vraiment sur la concertation sociale aux États-Unis, donc je peux juste dire que j'ai moins creusé les relations individuelles et collectives de travail, je me suis concentré sur la sécurité sociale. J'ai un petit peu regardé la manière dont ça avait évolué. Et là aussi, comme sur d'autres aspects, j'avais été frappé de constater que la situation n'a pas toujours été celle qu'elle est actuellement. Donc aujourd'hui, il y a 7% de la masse des salariés du secteur privé qui sont syndiqués. 7%, donc c'est un des taux de syndicalisation les plus bas au monde. Et nouveau, ça n'a pas été toujours le cas. Et sous Johnson, donc ça a décollé avec le New Deal de Roosevelt, mais sous Johnson, lors de la guerre contre la pauvreté, il y avait un tiers de la masse salariée qui était syndiquée. C'est pas très très en retrait par rapport à ce qu'on a dans toute une série de pays européens où la concertation sociale est bien implantée.
Juste là-dessus, je faisais surtout le lien parce que les organismes de sécurité sociale en Belgique sont collégés par.
Oui, et cet aspect-là, on ne l'a pas du tout parce qu'on est dans un système belgien.
Et ça explique aussi, relative à des gens, malgré tout, ce sous-terrain, la technologie sociale, au système général de sécurité sociale, qui forcément, quand c'est pas organisé de la même manière institutionnellement,
oui. Mais en Angleterre, le système s'est développé, le système beveridgien s'est développé sans les partenaires sociaux, et jusqu'à Thatcher était tout à fait responsable. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un facteur explicatif des différences ou pas. Et en fait, ça m'amène à je peux répondre par rapport à la question de mon angle d'approche, qui est effectivement la pauvreté plutôt que les inégalités. C'est un choix, sélectionner un angle d'approche, mais c'est aussi lié au fait que dans le modèle anglo-saxon, le modèle beveridgien, la pauvreté est la préoccupation de l'État-providence, plus que les écarts et les inégalités, donc effectivement.
Ça peut être aussi chez Croce, ça peut aussi être
Maximine,
de
Maximine, oui. Non, mais c'est tout à fait le... J'ai jamais entendu, même en essayant d'aller voir plus loin dans l'histoire, j'ai jamais entendu un moment où les autorités publiques aux États-Unis disaient que l'objectif était de réduire les écarts, de rapprocher, non, il faut éradiquer la pauvreté.
C'est l'âge de logique, donc il y a deux périodes, c'est les années 30, hein, pour aller du New Deal, et puis il y a Johnson, et je crois que dans ces deux, c'est une philosophie par exemple canadienne de la matière, donc cette idée que les inégalités, c'est mauvais aussi pour la stabilité de la marque économique, hein, donc plus avant la déchet, et donc quelque part, il y a cette vision là, un peu progressive sur leur but, donc je suis un petit peu social.
Je suis désolée, il faut que je réponde rapidement parce qu'après il faut que je parte. Mais donc sur le fédéralisme, le gouvernement fédéral aux États-Unis, quand il donne de l'argent, il garde le contrôle de la destination de cet argent. Donc par exemple, quand je parlais du corps de la ceinture de sécurité, le gouvernement fédéral a dit moi je veux bien financer la réfection de vos routes, mais uniquement si vous passez la loi sur le corps de la ceinture de sécurité. Sur Obamacare, là, c'était plus difficile, donc notamment par exemple sur la création des bourses d'échange pour les assurances privées. C'était un des arguments clés de ceux qui étaient contre Obamacare devant la Cour suprême, de dire que c'était une extension du pouvoir fédéral qui était illégitime par rapport à la Constitution. Et l'administration Obama s'est défendue en disant c'est la clause de commerce. Il y a une clause dans la Constitution américaine qui donne le droit au gouvernement fédéral de réglementer le commerce entre les États. Et donc, notamment, la clause de commerce, elle a été complètement étendue, notamment tout ce qui est droit civique, antidiscrimination, tout ça, c'est la clause de commerce. Alors que théoriquement, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai. Et la Cour suprême a requalifié en disant non, c'est pas la clause de commerce, c'est le droit de taxation. Donc, bon, ça, pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact majeur, mais c'est une requalification. Sur l'immigration, oui, il y a une immigration choisie, mais il y a une immigration illégale, notamment qui vient du Mexique. Aujourd'hui, il y a 13 millions d'Américains, 13 millions de personnes présentes sur le territoire américain de façon illégale. Donc, celles-là ne sont pas choisies. Elles sont très pauvres, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Et notamment, donc, la loi sur l'immigration qui, on espère, devrait passer d'ici la fin du mandat de 2020, permettrait de régulariser ces personnes-là et donc de leur donner accès à des programmes fédéraux comme Medicaid. Et donc aussi, on espère d'améliorer leur situation économique. Et juste une dernière chose sur les syndicats, tout à fait, enfin c'est la grosse offensive, ça c'était une des promesses d'Obama, il n'a pas réussi à le faire passer, c'était de faciliter la création de syndicats dans les entreprises et de protéger encore plus les travailleurs salariés. Mais il y a tout un ensemble d'initiatives, et notamment par référendum dans les États comme le Michigan, qui est un État important au niveau des syndicats, les initiatives défendues par la droite, qui est le right to work, c'est-à-dire, enfin, il y a un certain nombre d'entreprises où on ne pouvait travailler là que si on était syndiqué. Souvent, le salaire était de $50 de l'heure, enfin, des conditions très favorables. Et tout ça est en train d'être complètement détricoté, notamment sur des initiatives populaires. Donc, voilà. Voilà, et je suis désolée, je dois
finir. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, parce que c'était vraiment très intéressant. Je vous rappelle qu'il y a un dernier qui suit le 13 juin, et qui touche, des thèmes proches. Je ne me rappelle plus du titre exact, mais tu vas nous le donner.
Le marché peut-il s'occuper de la sécurité sociale?
Voilà, et donc ça sera peut-être l'occasion de poursuivre certains pans de la discussion qui a été entamée aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.